Voilà. Acte chapitre 1er, l'apôtre Pierre, prenant la parole au verset 15 jusqu'au verset 20, jusqu'au verset 21, a dit ceci. La lecture a été faite mercredi dernier. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des Sceaux que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21, acte chapitre 1er. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Voilà la compréhension de Pierre. Voilà la révélation de Pierre que Luc partage avec nous dans son compte rendu du livre des Actes. Pierre dit que la Bible, hein, lui dit l'Écriture, mais la Bible, la parole, la révélation qu'il va citer au verset 20, hein, il dit que cette révélation, c'est ce que le Saint-Esprit de Dieu, l'auteur de la Bible, celui qui a soufflé la parole de Dieu, le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit de Dieu a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Pierre est en train de dire à ses auditeurs, les frères et sœurs qui étaient rassemblés avec lui dans la chambre haute, que malgré la trahison de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont porté la main sur le Fils de Dieu, de ceux qui ont saisi Jésus, la parole de Dieu s'accomplit. La trahison de Judas était nécessaire à l'accomplissement du plan souverain de Dieu, qui avait annoncé cette trahison et d'autres éléments encore concernant Judas depuis l'Ancien Testament. Et à verset 17, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. J'avais dit mercredi dernier, fait référence à Judas. Judas était compté parmi les cinq apôtres. Il n'avait pas le même ministère qu'eux, mais il n'était pas sauvé. Il était avec eux, mais il n'était pas sauvé. J'ai évoqué Jean chapitre 6, verset 64, mercredi dernier, pour m'assurer que cet élément-là est très clair pour tout le monde, en expliquant que Jésus lui-même affirme que Judas, eh bien, n'était pas sauvé. Quand il dit en Jean 6, verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns, Judas et d'autres comme lui. Et cette affirmation du Christ, Jean dit que le Christ fait cette affirmation, déclare cette parole, à savoir qu'il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Jean dit que Jésus le dit cette parole, parce que dès le commencement, toujours en Jean 6, on l'a regardé mercredi dernier. Parce que dès le commencement, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Donc Jean indique que Judas est de ceux-là que Jésus dit qu'il ne croyait point. Il y a au verset 70 toujours de Jean 6, le Christ dira, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous, les douze, et l'un de vous est un démon. Et Jean commente au verset 71, Jean 6, en disant, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Judas faisait partie des apôtres, et je dis, parce que c'était essentiel qu'il trahisse Jésus. Mais cela ne veut pas dire que Dieu l'a obligé, très important pour la doctrine, il a sa volonté. Dieu s'est servi de sa trahison pour accomplir son plan éternel, son plan de gloire, mais Judas a agi de son propre choix, de son propre chef, de sa propre volonté. Volonté, hein? Il était compté parmi nous. Il était parmi nous, dit Pierre. Hein? N'empêche que Judas, je disais mercredi dernier, si Judas était parmi eux, il n'avait pas au même ministère qu'eux. Mais que toutefois, Judas s'est lancé, il n'avait pas cru d'abord, premièrement, il n'avait pas cru. Et ensuite, il s'est lancé dans cette aventure périlleuse. Et à macabre que nous savons. Alors, j'ai dit mercredi dernier que Judas est un bel exemple d'une occasion manquée. Hein? Et il avait les mêmes privilèges qui a été accordé aux 12, aux 11 autres hommes de Dieu, aux 11 apôtres. Il vivait avec le Seigneur, il œuvrait avec lui. Hein? Et il a eu la possibilité de croire, hein, au Seigneur, mais il ne l'a pas fait. Donc, c'est un exemple typique, hein, dis-je, d'une occasion manquée. Et là, le verset 18 à 19 nous avait pris un bon bout de temps. Mercredi dernier. Luc dit que Judas, hein, je me rappelle, je sais que j'en ai déjà parlé, on y arrive. On arrive à la matière du jour tout à l'heure, si Dieu veut. Mais c'est important que je reprenne tout cela. Luc dit que Judas a acquis un champ avec le salaire du prix. Hein. Si j'étais en présentiel avec vous, je vous demanderais qu'est-ce que j'avais dit à ce sujet. Hein, je vous poserai la question, qu'est-ce que j'avais dit à ce sujet? Quand Luc dit que Judas a acquis un champ avec le salaire du crime, qu'est-ce que j'avais dit? Bon. Hein? J'avais dit que de dire que c'est Judas qui a acquis le champ avec le. C'est vrai, mais pas au premier degré. Hein? C'est vrai, mais pas au premier degré. C'est vrai plutôt au second degré. Hein? J'ai expliqué cela. En disant que Judas n'a pas acheté le champ lui-même, le champ en question. Hein? J'avais dit que c'est plutôt l'argent de Judas qui avait acheté le champ. Hein? C'est ce que j'avais dit, oui. C'est l'argent de Judas qui avait acheté ce champ-là. L'argent de Judas en question, ce sont les 30 pièces d'argent pour lesquelles qu'il a reçu contre la livraison du Christ, contre la trahison du Christ, hein, les 30 pièces d'argent qu'il avait reçues. Je suis retourné à Matthieu 27 pour vous expliquer tout cela. Hein. Alors voilà, les 30 pièces d'argent que Judas avait reçues en paiement pour avoir livré le Seigneur, c'est cet argent-là qui a permis aux principaux chefs d'acheter un champ, hein, parce que Judas, après avoir éprouvé des remords pour avoir livré le Fils de Dieu, il est allé remettre cet argent aux gens qui le lui avaient donné. En fait, il l'a déposé dans le temple. Mais les gens ne voulaient pas laisser cet argent dans le temple. Hein? Donc, il essayait de réparer son geste, mais ces autorités-là ont refusé de garder cet argent parce que, disent-elles, c'était l'argent du sang, l'argent de la malédiction. Ils ne voulaient pas le garder. Il dit, Judas, débrouille avec l'argent, ou travail non payé, ou qu'est-ce que l'argent, ou. Au lieu de garder cet argent, les autorités ont préféré acheter un champ. Avec cet argent-là. Je vous avais dit dans quel but ils avaient acheté ça. C'était pour fabriquer des sépultures, pour enterrer des étrangers. Luc dit que les habitants de Jérusalem appellent ce champ, champ du sang, Akeldama, champ du sang, puisqu'on l'a acquis avec l'argent du sang. C'est ce que nous avons lu au verset 18 à 19 de Actes chapitre 1er. Mes frères et mes sœurs. Et votre serviteur avait conclu partiellement en disant que c'est la raison pour laquelle Luc dit que Judas est l'acheteur, est l'acquéreur, hein, du champ de sang, du Adel Kama, du Akel Dama, pardon. Alors voilà. Au verset 18, hein, Judas, pour sa part, s'est suicidé. Hein? Dans l'évangile selon Matthieu, frères et sœurs, mes bien-aimés, il est dit que Judas s'est pendu. Hein? Il est dit que Judas s'est pendu. Il n'y a pas de contradiction entre Marc et Luc. Entre Marc qui dit que Judas est tombé et il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Il n'y a pas de contradiction entre Luc et Marc. Au contraire, Luc complète le compte-rendu de Matthieu. Hein? Luc complète, Luc rajoute des éléments du compte-rendu de la mort de Judas que Matthieu n'avait pas trouvé nécessaire de rapporter. C'est très important lors d'étudier la Bible pour chercher à comprendre quelle était la perspective de l'auteur. Ouais, Luc, son monde qui est bien décidé pour le ramasser ensemble de détails le plus de détails possible. Voyez-vous, Luc est quelqu'un, son monde qui décide de ramasser en pile détails, le plus de détails possible, pour le convaincre Timothée de la réalité historique du Christ, du Jésus historique. Alors, il a tendance à donner davantage de détails que d'autres écrivains avant lui ou à côté de lui ou après lui et ne se sont pas souciés de donner. Hein. Ainsi, Luc complète le récit de Matthieu dans la mesure où l'arbre que Judas, l'arbre pied-bois que Judas a utilisé pour le pentetria, l'arbre que Judas utilisait pour se pendre, se trouvait en haut d'une falaise. Alors, si Luc nous dit que Luc ne nous dit pas tous les détails, mais lorsque Luc nous dit que Judas est tombé, il s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues, il faut comprendre que mais soit la branche à laquelle la corde que Judas a utilisé pour se pendre s'est rompue, s'est cassée, a cédé, soit que la corde elle-même a cédé. Il ne s'agit pas de deux récits différents, encore une fois, entre que le récit de Luc et le récit de Matthieu. Fort probablement, il s'est passé quelque chose qui explique que le même Judas qui s'est pendu, eh bien, est tombé. Matthieu ne l'a pas dit, mais Luc l'a dit. Et maintenant, nous sommes au verset 20. Nous sommes au verset 20. Ça marche pour ce soir. Au verset 16. Au verset 16, on l'a vu, on l'a lu tout à l'heure. On l'avait vu, puis même décortiqué mercredi dernier. Luc dit, oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Hein? C'est ce que Luc dit au verset 16. La trahison de Judas, sa mort et même son remplacement, hein, par un autre apôtre du Seigneur ont été annoncés, ont été prophétisés, ont été révélés par David dans l'Ancien Testament. Homme frère, verset 16, homme frère, il fallait, je parlais du verset 20, mais je vous parle du verset 6, 16, pardon, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le verset 16 qui annonce ce que le verset 20 va dire. Verset 16, encore une fois, peut-être une quatrième ou une cinquième fois. Il fallait, à chapitre premier, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, donc dans l'Ancien Testament, pour Pierre, à cette époque-là, c'était l'Ancien Testament, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi. Hein? Je vous avais dit, David, souvent, était dans un rôle prophétique. David se trouvait souvent, mais pas juste lui, et en tant que psalmiste, David se trouvait souvent dans un rôle prophétique. En tant que roi, David proclamait des choses à venir. Hein? C'est dans une de ces circonstances-là, dans une de ces occasions-là, que Dieu lui donne d'annoncer des choses à venir. On se demande à quel point lui savait ce qu'il annonçait. À quel point lui était, il savait qu'est-ce qu'il annonçait. Eh bien, dans une de ces occasions-là, il a prophétisé la trahison de Judas. David a prophétisé la mort de Judas. Et David a prophétisé même le remplacement de Judas. C'est ça qu'il a dit là au verset 16. Et puis, dans verset 20, Paul bat exemple. Dans verset 20, Paul bat exemple. Voyez-vous? Pourquoi j'arrêtais pas de lire le verset 16 pour le mettre en parallèle avec le verset 20 pour mieux vous faire voir la relation entre les deux, la continuité qu'il y a entre les deux. Hein. Au verset 20, eh bien, Pierre, Luc nous rapporte, Luc nous rapporte que Pierre évoque ou bien relate deux annonces du livre des Psaumes concernant Judas, annonces qui ont été accomplies comme ça a été fait, comme ça a été donné. Et d'abord, Pierre évoque le psaume 55, verset 13 à 16. Nous lisons ce qui suit, psaume 55, verset 13 à 16. Hein? Il va dire des choses qui ont été dites, annoncées d'avance concernant Judas. Là, vous l'aurez compris, ça va être la trahison de Judas. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce psaume. Hein? Je sais qu'il y en a des détails importants, mais l'étude ne porte pas sur les psaumes, ni sur ce psaume. L'étude porte sur Actes, en l'occurrence pour l'instant, le chapitre 1er, versets 16 à 20, 25. Je m'a seulement dit rapidement que le Saint-Esprit de Dieu, parlant à Pierre, lui fait comprendre, lui dit que quand David disait ça, faisait cette déclaration, même si dans le temps présent de David, même si au temps de David, David avait quelqu'un en vue, en particulier, je ne veux pas nommer personne, je ne veux pas rentrer dans les détails, même si David avait quelqu'un en vue, mais ultimement, David parlait au nom du Christ. Hein? Le je de David, c'est le Christ qui parle. David annonce Christ qui parle, qui parle de la trahison dont il est victime. Et c'est ce que l'Écriture soutient par l'entremise de l'apôtre Pierre. Ça, c'est une première. Ça m'a fait là, c'est montrer ça, Pierre dit là. Quand Pierre dit, au verset 16, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit de Dieu, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Voyez-vous? Donc, une de ces choses-là, encore une fois, que le Saint-Esprit a annoncé d'avance dans l'Écriture, par l'Écriture, au sujet de Judas, c'est sa trahison. Hein? Et où est-ce que David en parle? Mais c'est dans le psaume 55, versets à 13 à 16 en particulier. De même, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, là, qu'on est à l'Afkadi, là, on est un petit peu en théologie, là. Un grand monde qui te demande ça, bah, la fois passée, qui différence qui gagne, mais là, la fois bagaille, les typologies. Hein? La fois bagaille en théologie, quelle est la typologie. Hein? Donc là, non en théologie, non plus que dans l'étude biblique, là, non en théologie, mais ce n'est pas grave. De même, le psaume 69, le verset 26, annonce le fait que Judas serait remplacé. Hein? Et le fait que le ministère de Judas serait vacant. Le psaume 69, verset 26, a annoncé aussi. Donc, je suis en train de te montrer de quoi Pierre parle quand il dit, eh bien, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit de Dieu a annoncé d'avance par la bouche de David. Si ça m'a fait là, m'a montré, c'est qui ça, le Saint-Esprit, t'a annoncé. Il dit, il fallait que. C'est important pour nous de nous arrêter là-dessus. Parce qu'il dit, il fallait que. Voyez-vous, voici ce que nous lisons en Psaume 69, verset 26. Que leurs demeures deviennent désertes et que personne ne l'habite. Que leur demeure déserte et que personne ne l'habite. Eh bien, lorsque nous avons que leur demeure devienne déserte, eh bien, bon, tout le monde dit ça, vous voulez avec son nom, et vous faites ça, vous voulez avec lui, mais il a seulement parlé plus loin que tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut penser, hein, si on n'a pas la même Bible qui nous éclaire sur la portée de ces paroles des psaumes. Hein? Très important de comprendre cela. Donc, que leur demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, on l'a dit, son parole m'a dit chant, mais son parole qui concernait ça qui va passer Judas, ça qui va arriver Judas dans le Nouveau Testament. Oui, voyez-vous? Donc, il y a, oui, un caractère imprécatoire, hein? Un caractère d'imprécation dans tout passage saillot, hein? Déjà dans le psaume 55, que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, voyez-vous? Donc, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux-mêmes. Voilà. Donc, il faut vraiment regarder au-delà de l'humain pour voir plus loin des annonces qui sont faites dans ces psaumes-là, concernant l'Église du Seigneur, concernant le Seigneur, concernant l'enfer, concernant plein de choses. C'est bien important de la journée où vous êtes capable de lire la Bible de cette façon-là, mais ça va faire une grande différence dans votre compréhension de la Bible. Dans le psaume 109, parce que c'est de psalmiste qu'il s'agit au verset 16, Pierre dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a annoncé d'avance dans l'Écriture. Alors, on regarde quelques éléments concernant Judas, si ça n'a pas fait là. Au psaume 109, verset 7 à 8, eh bien, il est annoncé que Judas sera remplacé et un autre prendra sa place. Quand le texte dit psaume 109, verset 7 à 8, et qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Voilà de quelle manière l'Écriture annonce que Judas sera remplacé. Je vous ai montré quelques passages de l'Ancien Testament. Jean-Pierre dit là, particulièrement dans le psautier, hein, où l'Écriture annonce d'avance que Judas trahirait le Fils de Dieu, que son ministère, sa place serait vacante, et que deuxièmement, quelqu'un d'autre prendrait sa place. Hein, qu'un autre prenne sa charge. Toutes ces citations, toutes ces déclarations, toutes ces révélations que nous trouvons dans trois contextes différents, hein, nous donnent des informations sur ce qui allait arriver avec Judas ou ce qui allait arriver à Judas ou ce qui allait arriver concernant Judas. Alors, vous l'aurez compris, l'apôtre Pierre utilise le moyen le plus sûr, hein, pour arriver, en l'occurrence la Bible, la parole de Dieu, pour arriver à convaincre les gens qui l'écoutaient que la trahison de Judas, hein, et le remplacement de Judas relève du plan souverain de Dieu, du plan éternel de Dieu. Hein, ce Dieu-là, qui a tout prévu, mes frères et mes sœurs. Dieu a tout prévu d'avance. Sans obliger Judas à quoi que ce soit, il a tout annoncé d'avance. Il a tout prévu d'avance. Il a tout annoncé d'avance. Et ça, c'est important. Le Dieu que nous servons n'a pas été pris au dépourvu. Le Christ, quand il fut trahi par Judas, vous avez vu maintes déclarations du Christ qui démontraient qu'il s'attendait à ce que quelqu'un le livre. Il le savait. Il est Dieu. Il est omniscient. Et il connaît parfaitement bien le plan souverain et éternel de Dieu le Père. Le Seigneur Jésus savait qu'il y avait Judas. Il savait ce que Judas allait faire. Il savait comment Judas allait être puni pour ce qu'il a fait. Il savait comment il allait utiliser le plan de Judas au profit de son propre plan, gloire à Dieu. Il savait que Judas serait jugé. Il savait que Judas serait condamné. Il savait que Judas serait remplacé. Il savait que Judas irait en enfer. Il le savait. Gloire à notre Dieu. D'où la raison pour laquelle vous et moi, nous devons continuer à compter sur la parole de Dieu. D'où la raison pour laquelle vous et moi, nous devons continuer à croire aux promesses de Dieu. D'où la raison pour laquelle vous et moi, nous devons continuer à nous appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, lorsque l'adversaire se dresse soudain devant nos pas, lançant ses flèches, comme dit l'auteur de ce cantique 198, Chant d'espérance français, ouvrant des brèches. Nous devons continuer à nous appuyer sur Dieu, en nous rappelant que la parole de Dieu, de ce Dieu souverain que nous servons, est capable de nous défendre contre les traits enflammés du malin, contre les ruses du diable. Devant cette expérience de ce Dieu qui, dans son plan parfait et souverain, savait comment l'histoire allait se dérouler, comment l'histoire allait se terminer, et qui a été capable de faire concourir toutes choses au bien de son plan, au bien de son Fils. Nous sommes appelés, vous et moi, à nous étendre devant ce Dieu. Nous sommes appelés, vous et moi, à faire confiance chaque jour davantage à ce Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui prévoit tout, qui n'est pas pris au dépourvu par rien, par quoi que ce soit, ni par personne. Nous sommes appelés à continuer à le louer, à le glorifier, à le remercier à chaque instant de la vie. Nous sommes appelés à reconnaître qu'avec un tel Dieu à nos côtés, eh bien, nous serons toujours capables. Avec ce Dieu, vous pouvez être tout. Gloire à notre Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit Saint Paul, Philippiens 4, verset 13, parce qu'il connaissait la souveraineté de ce Dieu avec lequel il marchait, frères et sœurs. Avec ce Dieu à vos côtés, croyez que vous pouvez recevoir la guérison. Avec ce Dieu à vos côtés, croyez que vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés. Avec ce Dieu à vos côtés, croyez que vous pouvez être consolé devant les accablements, les découragements, les moments difficiles de la vie sur cette terre. Avec ce Dieu à vos côtés, croyez que vous serez capable d'honorer vos factures, car votre Dieu, voilà notre Dieu, a tout prévu dans sa parole. Il a dit qu'il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Croyez qu'avec ce Dieu à vos côtés, les écluses des cieux seront ouvertes pour vous. Avec ce Dieu à vos côtés, ce Dieu souverain qui sait tout, qui prévoit tout, qui annonce tout dès avant que les choses arrivent. Croyez que ce Dieu-là, qui promet dans sa parole de déverser sa bénédiction sur vous, le fera et que rien, encore une fois, ni personne ne peut l'en empêcher. Croyez qu'avec ce Dieu, continuez de croire, continuez d'espérer que vous pouvez recevoir la réponse à vos prières. Car ce Dieu a parlé dans sa parole, dans cette même écriture, qui a annoncé d'avance la trahison de Judas, sa mort, son remplacement, que son ministère serait vacant. Il le savait déjà. Mais ce Dieu-là, il a prévu ceci à votre égard. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Si c'était vrai concernant tout ce qui a été annoncé à propos de Judas, c'est aussi vrai concernant tout ce qui est annoncé à propos de votre bénédiction. Il vous soutiendra. Il vous guérira. Il vous bénira. Il vous sécurisera. Il vous dirigera. Il vous protégera. Il vous relèvera. Il vous consolera. Gloire à notre Dieu. Maintenant, je crois que nous sommes mûrs pour passer au verset 21 à 26. Que nous dit déjà les versets 21 à 26? Il faut donc que parmi, voilà, à chapitre 1er, il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, c'est Pierre qui continue de s'adresser aux personnes qui étaient avec lui dans l'appartement appelé la chambre haute. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Voyez-vous ce que le leader fait, ce que l'homme de Dieu fait? Il a fini de leur expliquer que ça qui a passé là, c'est bon bagage que les hommes ont dirigé. C'est bon bagage que les hommes ont fait. C'est plan bon Dieu qui a développé. L'elfine dit, ça lui dit, il faut donc. Gloire à Dieu. En raison de toute ça, le dit là, il dit qu'on est là, c'est pas garder derrière, c'est pas arrêter à trister, mais c'est mettre pour nous mettre ensemble pour nous procéder au remplacement de Judas. Pas garder, pas penser à Judas encore, pas gagner tête chaude à cause de Judas encore. Ce qui est arrivé, ça fait partie du plan de Dieu. Ne vous abattez pas, ne vous découragez pas. Arrêtez de vous fixer sur Judas, c'est terminé. Regardons de l'avant. Gloire à Dieu. Il faut donc, hein, donc c'est en fonction de tout ce que je viens de dire, il vient de dire. Il faut donc que maintenant, gloire à Dieu, hein, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus ait vécu avec nous, etc. OK, alors, vous l'aurez compris, Pierre, comme le leader du collège apostolique, en tout cas, ce qu'il en reste, ils sont 11 maintenant, Judas étant parti et ayant fait défection, il tombe à 11. Alors, Pierre, à leur tête, maintenant, enclenche le processus du remplacement de Judas. Et puis, ce qu'il fait, il dresse la liste des exigences pour des critères. Hein, il dresse le profil de celui-là qui doit le remplacer. Hein. Donc, le candidat qu'il faut, le candidat recherché pour remplacer Judas doit répondre à un certain nombre de critères. Vous les voyez, ce n'est pas un texte difficile. Hein? Il doit avoir accompagné les apôtres tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec eux. Foltez là. Gloire à Dieu. Hein? Depuis le baptême de Jean, parce que c'est à partir du baptême de Jean que son ministère, à proprement parler, débute, commence. Faut qu'on en témoigne du ministère du Christ, du début jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Il doit avoir accompagné les apôtres tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec eux, depuis le baptême jusqu'au jour où il a été enlevé, l'autre jour, on t'a parlé l'autre jour, jusqu'au jour où il a été enlevé sur la montagne des Oliviers, au Théoéana, à première. Hein? Faut qu'on en témoigne, tout bagaille ça, faut qu'on en témoigne là, faut être témoin, on te pour remplacer Judas. Hey, gloire à Dieu. Mais vous, comment notre Dieu est capable d'organiser ses affaires, frères et sœurs? Il devrait avoir été témoin de tout le ministère terrestre du Seigneur, de ses débuts à son baptême, jusqu'au point culminant, c'est-à-dire l'ascension. Le fait que les montées, il a été dérobé à leurs yeux, à noter l'autre jour. Et bien, il a gardé le capot. Il faut que tout le monde ait été Judas. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle un témoin, un apôtre. Gloire à Dieu. Paul fait exception à la règle. Soit, alors, bon, on connaît, on compte ça déjà, mais au cas où tu as dit, mais comment ça se fait que Paul, qui pourrait rencontrer le Seigneur bien, bien longtemps après sa résurrection, comment ça se fait que Paul soit apôtre? Et puis pas des moindres, un apôtre comme les autres. J'en ai débattu, j'en ai parlé hein, quand j'étudiais Actes avec vous. Pas Actes, quand j'étudiais Galates avec vous, j'en ai parlé. Ceux qui étaient là s'en rappellent. Pierre, lui, son apôtre d'un autre ordre. Hein. C'est un apôtre d'un autre ordre. Tout simplement. Et quoi, c'est une exception. C'est le seul apôtre que Dieu, dans sa souveraineté, a déterminé qu'il n'a pas besoin de témoin de ministère, qu'il n'a pas besoin d'abservili, qu'il n'a pas besoin de témoin de ministère d'abservili, depuis baptême jusqu'à son ascension. C'est une exception, mais Dieu l'a décidé ainsi. Dieu l'a décidé ainsi. Et Dieu, et si vous analysez l'écriture, vous comprenez qui ça, mon Dieu, fait, vous comprenez qui ça, mon Dieu, fait, vous comprenez qui ça, mon Dieu, fait. C'est très facile là, ouais. À comprendre pourquoi ça, mon Dieu, fait ça. C'est ça qu'on est. Hein. C'est-à-dire que c'est mon Dieu qui toujours voulait utiliser des choses viles, des choses ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Il va s'avérer, si ce n'est le plus grand des apôtres, l'un des plus grands apôtres. Si on peut en parler de cette façon-là, pourquoi que le chef de mon ministère, de mon façon que mon Dieu te travaille avec. Mais si vous regardez ça, Paul produit, ça, Paul quitter, ça, Paul fait. Ça, mon Dieu fait avec Paul. Je crois que c'est ça, il voulait montrer tout. Lorsque c'est le seul qui n'a pas été témoin du ministère du Fils de Dieu et qui est élevé au rang, qui est appelé comme apôtre, qui est élevé au rang apostolique, et puis qui a fait le travail qu'il a fait. Je crois que Dieu veut nous parler en ce sens aussi. Une des raisons. La deuxième exigence, c'est que celui qui doit être choisi doit avoir été témoin de la résurrection du Seigneur. C'est normal. Parce que un apôtre, c'est un envoyé, c'est un témoin. Alors, la résurrection, c'est la colonne vertébrale de la doctrine. Hein? Alors, il a fallu qu'il ait vu le Fils de Dieu ressuscité. Hein? Il a fallu qu'il ait été témoin de sa résurrection parce que la résurrection va être au cœur de la proclamation apostolique, de l'évangile apostolique. Alors, sans surprise. Alors, voilà. Tous les apôtres doivent avoir été des témoins oculaires, à part Saint Paul, de la résurrection du Seigneur. Vous direz, j'ai tout à fait, gloire à Dieu. Et puis, chemin faisant, l'oratoire, hein, je n'ai même pas besoin de mes notes, hein, chemin faisant, il y a deux hommes de Dieu qui ont été visés, hein, qui ont répondu aux critères. Chemin faisant, il y a deux hommes de Dieu qui ont répondu à ces critères-là, gloire à Dieu. En l'occurrence, il y a Matthias, il y a Joseph appelé Barsabas, et il y a surnommé Justus, ou bien Justus en français, et Matthias. Hein? Il y a deux hommes de Dieu parmi ceux qui étaient là, dans la chambre haute, ont répondu à ces critères. Gloire à Dieu. Et s'ils cherchent un homme de Dieu et qu'il y en a deux qui répondent exactement, beaucoup, beaucoup, précisément à ces deux critères, alors il a fallu qu'il départage. Il a fallu qu'il départage. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ils vont départager au verset 26, ils vont tirer au sort, et le sort va tomber, verset 26, hein? Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc il y a une 12 qu'on est là, il retourne 12. Donc, pas oublier, c'est Matthias qui est remplacé et à monsieur que les Judas qui était trahi Jésus, qui a fait au bout 30 pièces d'argent, qui bêtisait, eh bien, c'est serviteur Matthias qui était remplacé. Il faut besoin songer que serviteur Matthias, pas seulement qui te correspond à critères nécessaires, qui était défini par le Saint-Esprit de Dieu, mais qui a été révélé par Paul, par Pierre, pardon. Le chef du collège des apôtres, eh bien, les critères, c'est deux hommes de Dieu qui te rencontrent les critères, qui n'ont pas de gain plus connaissance que l'autre sous-sujet, ça, yo. Mais ainsi, il a fallu trancher il a fallu départager. Eh bien, ils ont fait un tirage au sort. C'est Matthias qui remporte le tirage au sort, selon le Saint-Esprit, selon le choix divin, d'ailleurs, cela dit. Et puis, c'est lui-même qui vient remplacer. Et Judas, le collègue des apôtres, revient à 12. Et puis, une fois sa fin de fête, n'a pas le si Dieu veut mercredi, et bien c'est alors que le Saint-Esprit de Dieu va le venir. Hein? Donc, bon Dieu, finira, j'ai tout à fait, mais tous les préparatifs. Avec le remplacement de Judas, on peut dire, vous et moi, que tous les préparatifs, hein, pour la naissance de l'Église est là, sont déjà faits. Et là, le remplacement de Judas, le choix de Matthias pour remplacer Judas, c'est ce que les théologiens appellent l'étape charnière, hein, le moment charnier, l'étape ultime, l'étape finale des préparatifs pour la venue de l'Esprit qui pourra faire s'annoncer la naissance de l'Église là. Hein. Bon, dirait j'ai fait le planifié tout à fait de A à Z. Son plan est parfait. Et puis il déploie ton plan au fur et à mesure. Mon cap travaille dans le même comme instrument, il n'y a pas fini de compte ça qui a passé. Au fur et à mesure qu'il y a des révélations. Et puis bon Dieu a montré qui ça peut faire, qui j'en peux faire. Moi, je t'arrête seulement terminer à ce pour me dire que les tirages au sort ont déjà existé depuis dans l'Ancien Testament. Hein? Bon, en Proverbe 16, verset 33, il est écrit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ndaramen doit assurer que tirage au sort, c'est pas façon pour l'Église décider. Même si ouais, que ces saints hommes de Dieu, respectables et respectés, ils ont procédé comme ça, mais c'est pas un modèle pour l'Église. L'Église n'est pas appelée à faire tirage au sort pour le décider rien. L'Église, c'est prier pour le prier, puis pour une révélation. Non, mais mon Dieu, la plupart du temps, à travers l'ange de l'Église, et puis d'autres femmes, hommes de Dieu qui entourent Élie, et puis que mon Dieu a voué venir parler Élie, a voué venir parler des révélations. On n'a pas dit que son péché tirage au sort, n'est pas ça, me dit non. Si t'as bon bagage ou font tirage au sort dans l'Église ou bien l'autre l'Église, non, c'est pas ça, me dit non. Même si ce n'est pas une pratique pour l'Église. Il n'a pas été donné, et lorsque les saints apôtres l'ont pratiqué ici, il paraît ton modèle pour l'Église. Voyez-vous, l'Église n'a pas doué, et ça vous le dit, c'est que l'Église doit faire preuve d'abnégation, preuve de sagesse, preuve même de retenue, de prudence, dans le recours au tirage au sort pour décider ça concernait la vie de l'Église. C'est ça que vous le dit. Et c'est important que me dit, parce qu'il y a un peu l'Église qui prend fond pratique. Et bien, critique pour faire tirage au sort. Pourquoi me dit ça? Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que, ces dernières fois, la Bible pourra le montrer nous, que l'Église pourra le procéder avec l'Église naissante qui a préparé pour l'année là, elle pourra le procéder à tirage au sort. Et après, une fois que le Saint-Esprit de Dieu finit, ou pas besoin de faire tirage au sort encore pour qu'on ait révélation, pour que bon Dieu révèle ça, l'a révélé, soit pour la vie, ou soit pour la vie de l'Église, là, soit pour la vie groupe, pour diriger. Là. Moi, donc, pas dit son péché, mais il n'est pas dans une pratique. Hein? Il n'est pas dans une pratique. La venue de l'Esprit infirme la nécessité du tirage au sort. Voilà. Voilà. Je répète, la venue de l'Esprit hein, infirme la nécessité de recourir au tirage au sort pour prendre décision dans l'Église. Ben, si ça arrive une fois, très très rarement, je ne dis pas que ce soit un péché non plus. Comprenez-moi bien, mais il n'y a pas de mode de décision. Il n'y a pas de mode de décision dans l'Église. Voilà. Eh bien, ben, c'est ça. Donc, on est à la table est rangée pour la venue de l'Esprit. Mais si Dieu veut, on verra la venue de l'Esprit la semaine prochaine, si le Seigneur me prête vie. Voilà, ainsi soit-il.
Pasteur.